Le journal vous est présenté par Yves Decan. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Quand les élus des grandes villes appellent à l'aide pour leurs petits commerces, après 13 samedis de manifestations de suite, des milliers de licenciements seraient en route, selon l'association France Urbaine, qui demande au gouvernement d'aller plus loin dans l'aide aux commerçants. Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Madrid, la droite, les centristes et l'extrême droite, ensemble contre le gouvernement socialiste, jugé trop enclin au dialogue avec les indépendantistes. Parmi les manifestants, un certain Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone. En Algérie, le président Bouteflika confirme officiellement qu'il sera bien candidat pour un cinquième mandat. Question de stabilité pour le pays, expliquent les responsables de son parti, le FLN. En sport, le Waterloo du rugby français en Angleterre, où filles et garçons ont pris la leçon pour leur deuxième match du tournoi, il y a comme un malaise. 41-26 pour les dames à Doncaster, 44-8 pour les messieurs à Twickenham. En Ligue 1 de football, Lille consolide sa deuxième place en s'imposant à Guingamp 2-0. Les Nantais battus sur leur terrain par Nîmes 4-2. Match nul entre Toulouse et Reims 1-1. Montpellier-Monaco 2-2. Mauvais temps pour le PSG à deux jours du match de Ligue des Champions contre Manchester après Neymar. Cavani et Meunier sont forfaits. En tennis, Caroline Garcia sans problème face à la Belge Elise Mertens. Elle envoie les Bleus en demi-finale de la Fed Cup. Et puis Tsonga renoue avec la victoire. Plus d'un an après son dernier titre, il remporte le tournoi de Montpellier. Le journal des sports, c'est dans un instant avec Fabrice Abgral. Enfin la météo, deux départements sont encore en vigilance orange au vent fort ce soir. La Savoie et la Haute-Savoie. Des trains ont été supprimés cet après-midi en Bourgogne-Franche-Comté par précaution, mais la tempête a finalement soufflé moins fort que prévu. Demain, du soleil au nord de la Loire jusqu'en Belgique et sur le Poitou-Charente, maussade au sud de la Garonne est très variable partout ailleurs. Une alerte rouge dans la crise des gilets jaunes, une alerte lancée par les élus des grandes villes pour les commerçants des centres-villes, de certains centres-villes où les manifestations à répétition ont fait fuir les clients du samedi. L'association France Urbaine, dans laquelle ces grands élus se sont regroupés, demande au gouvernement de passer la vitesse supérieure dans son soutien aux professionnels en difficulté. Il ne suffit plus de reporter leurs charges, il faut maintenant les indemniser, explique notamment Jean-Luc Moudinque, le maire Les Républicains de Toulouse, président de l'association.
Les gens, maintenant, ils se disent « Ah, le samedi, c'est la manif, c'est les gilets jaunes, c'est la casse, les dégradations, donc je n'y vais plus. » Ce qui fait que, même quand on vit un samedi sans trop de casse, comme hier par exemple, en réalité, la casse, elle est dans la caisse. C'est un problème d'une ampleur qui ne s'est jamais posée. Si on veut sauver ce tissu commercial, ce tissu d'entreprise et d'emploi, il faut que l'État décrète des mesures exceptionnelles. On pouvait, dans un premier temps, envisager des reports, des échéances fiscales, des délais de paiement, sauf que les samedis noirs succèdent aux samedis noirs, et donc les mesures d'étalement de paiement ne suffisent plus. Il faut que l'État envisage désormais des exonérations si on veut éviter que des entreprises meurent et que trop d'emplois soient détruits. Parce que à l'heure où je parle, il y a déjà plusieurs milliers de licenciements qui sont en route, hélas.
La casse est dans la caisse. Jean-Luc Moudinque au téléphone de Béatrice Duguay. Au bilan de ce 13e acte des Gilets jaunes, hier, on retient surtout quelques violences. Cette main arrachée d'un manifestant qui a voulu éloigner de lui une grenade, une blessure grave que je regrette, a dit ce midi sur France Inter le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en confirmant qu'une enquête avait été ouverte. Le ministre qui a redit son indignation face aux dégradations commises tout au long du parcours à Paris, notamment les distributeurs de billets quasiment tous détruits, mais aussi le mobilier urbain et ce véhicule de la mission Vigipirate stationné devant la tour Eiffel et incendié. Le coupable, selon Christophe Castaner, serait issu de la mouvance anarcho-libertaire. Il a été identifié et placé en garde à vue. Et puis parmi les interpellations de ce 13e acte, un adolescent de 12 ans à Montpellier, arrêté avec un lance-pierre alors qu'il visait la préfecture, adolescent connu des services de l'enfance. Il sera de nouveau présenté à un juge pour enfants. En attendant, le grand débat va se poursuivre autour des syndicats agricoles d'être reçus demain à l'Élysée par le chef de l'État. Aucune décision n'a été prise sur un possible référendum, a également répété le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Mais un référendum ou une loi, peu importe, ce sont des outils et ce ne sont pas les outils qui comptent, dit-il. C'est là où les questions. À ce sujet, peut-être la taxe carbone reviendra-t-elle sur la table? C'est en tout cas ce que souhaite la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poulin. Poirson, car cette taxe est un outil, dit-elle, un outil efficace.
Elle reviendra peut-être, ça va faire partie des discussions, et ça en fait partie d'ailleurs. Les questions de fiscalité et de pouvoir d'achat sont au centre des préoccupations des Français, elles occupent une place importante dans le grand débat. Mais une chose qui est certaine, c'est que la taxe carbone, les économistes l'ont montré, et on le sait depuis longtemps, c'est un outil qui est efficace. Un outil en faveur de la transition écologique qui a un vrai impact parce que il envoie un signal prix qui permet aux gens de changer leur comportement. Là, il faut repenser à la fiscalité dans sa globalité. Vous savez, par exemple, moi, il y a quelque chose que je pense qui pourrait être intéressant de débattre dans le cadre du grand débat. Ce serait d'enlever du calcul du déficit les investissements qui sont réalisés en faveur de la transition écologique. Pourquoi ? Parce que en France, la transition écologique, ça nécessite entre 55 et 85 milliards d'euros par an. Ce sont des sommes qui sont très importantes. Aujourd'hui, tous secteurs confondus, on investit environ 31 milliards d'euros. On voit que ce n'est donc pas du tout suffisant.
Brune Poirson, ce midi sur France 3. En bref, à Lyon, probablement un incendie criminel au lendemain de l'explosion d'une boulangerie dans le 8e arrondissement et de l'incendie qui s'est propagé aux deux premiers étages de l'immeuble. La piste de l'acte volontaire est privilégiée par les enquêteurs. Une femme enceinte et son enfant sont morts. Quatre personnes ont été blessées. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. À Paris, le mot « Juden » inscrit en peinture jaune sur la porte d'un restaurant Bagelstein à Paris. Le tag a été découvert samedi matin. Les gérants du restaurant situé sur l'île Saint-Louis ont porté plainte. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour dégradation volontaire aggravée et provocation à la haine raciale. Et puis à Bordeaux, après une triple agression homophobe vendredi soir à la sortie d'un bar gay, deux plaintes ont été déposées ce dimanche. Pas question de laisser passer pour l'association Girophare qui défend les victimes de discrimination sexuelle. Tout s'est passé très vite. Les trois amis fumaient une cigarette quand ils ont été abordés par cinq individus. Et la suite, c'est le président de l'association, Michael Agbadebo, qui la raconte.
Et ils ont refusé de leur donner des cigarettes. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient devant un bar gay. Et donc, les coups se sont mis à pleuvoir et les insultes qui vont avec également. Sur deux victimes, donc deux ont été mises à terre. Et donc, après les coups de poing, il y a eu donc des coups de pied. Ça s'est arrêté quand les patrons de l'établissement, qui étaient encore à l'intérieur en train de faire le ménage et en train de finir de nettoyer leur établissement, ont entendu du bruit et sont sortis. Au moment où ils sont sortis, en fait, les agresseurs ont pris la fuite. Il ne faut pas se le cacher. Le mariage pour tous, la loi est passée, mais ça n'a pas tout réglé. Au contraire, la parole homophobe s'est décomplexée à ce moment-là. La discrimination liée à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, c'est quelque chose d'inacceptable. Et c'est quelque chose, hélas, qui existe encore et qui existe beaucoup trop.
Un témoignage recueilli par Camille Huppenoir de France Bleu Bordeaux-Gironde. Deux des victimes ont donc porté plainte. La troisième est encore à l'hôpital. En Espagne, 45 000 à 200 000 manifestants, selon les sources. Dans les rues de Madrid, ce matin, au cri de Sanchez démission, la droite et l'extrême droite ont réussi leur démonstration de force contre le chef du gouvernement socialiste en l'accusant d'avoir trahi le Parti populaire, les centristes de Ciudadanos et les extrémistes de Vox. Reproche à Pedro Sanchez, arrivé au pouvoir en juin, notamment grâce aux voix des indépendantistes, il lui reproche de chercher à dialoguer avec eux. Parmi les manifestants, ce dimanche, on aura noté la présence d'un certain Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone.
Le dialogue entre les institutions catalanes et espagnoles doit se faire avec des règles du jeu claires et sans céder au chantage des séparatistes. D'où ma présence avec, je crois, beaucoup, beaucoup de monde, avec beaucoup de drapeaux espagnols, mais aussi des drapeaux catalans, des drapeaux européens. Et au-delà des étiquettes politiques, c'était le cœur battant de l'Espagne qui s'exprimait ici. Il ne faut pas laisser le terrain du patriotisme au sens presque français du terme, ce qu'est l'Espagne. Il ne faut pas laisser ce terrain à l'extrême droite ou à tel ou tel groupuscule. Bon, ici, ils étaient là, ils étaient très minoritaires, mais on interdit à personne de participer à une manifestation de ce type. Moi, j'ai l'expérience de ce qui s'est passé en France et ce cordon sanitaire, comme vous dites et comme je l'avais rappelé il y a quelques mois, il a été possible aussi grâce à la droite française pendant des années, aussi bien Jacques Chirac que Nicolas Sarkozy. C'est très important.
On Manuel Valls au micro de Mathieu de Taillac. C'est mardi que s'ouvrira à Madrid le procès historique de 12 anciens leaders catalans responsables de la tentative de sécession de 2017. Un procès où ne sera pas leur chef, Carles Puigdemont, toujours en exil en Belgique. En Algérie, c'est confirmé, le président Bouteflika, 81 ans, sera le candidat de son parti, le FLN, pour la présidentielle du 18 avril. Il a ce matin, malgré ses problèmes de santé, donné son accord. Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 15 ans, n'apparaît quasiment plus en public depuis son AVC en 2013. Dans un message écrit à la Nation, il reconnaît ne plus avoir les mêmes forces physiques qu'avant, en ajoutant qu'il garde la volonté inébranlable de servir la patrie. Question de stabilité, explique de son côté le FLN en rappelant les années de guerre civile qu'a connu le pays jusqu'en 2002. Pur prétexte pour Sophie Bessis, historienne spécialiste du Maghreb à l'IRIS. Elle est au téléphone d'Olivia Ferrandi.
En fait, c'est une génération qui n'arrive pas à quitter le pouvoir. Et cette génération qui est composée de plusieurs, disons, strates, aussi bien évidemment les militaires qui ont toujours joué un rôle majeur dans le pouvoir algérien, de même que les oligarques également autour essentiellement du frère de l'actuel président, ne peuvent pas imaginer une alternative, ne disons pas une alternance, une alternative qui ne contrôlerait pas. Et le seul moyen pour empêcher une alternative qui ne contrôlerait pas est pour l'instant le maintien d'un président qui ne gouverne plus, bien évidemment, il en est physiquement bien incapable, et qui leur permet de rester aux manettes.
En Syrie, la bataille finale est engagée au nord-est du pays, à la frontière irakienne. Les forces arabo-kurdes, soutenues par Washington, ont lancé l'assaut contre le dernier réduit de l'État islamique, où les djihadistes combattants ne seraient plus que 500 à 600, principalement des étrangers. Et puis en Iran, c'était il y a 40 ans, le 11 février 79, très précisément, l'ayatollah Khomeini arrivait au pouvoir après en avoir chassé le Shah. Victoire de la révolution islamique dont les effets se font encore sentir aujourd'hui dans le monde. Et cette date anniversaire sera demain célébré comme il se doit par une grande manifestation publique et depuis quelque temps déjà par une exposition dédiée aux forces armées, exposition que Franck Madvon a visitée.
Les enfants essayent un fusil d'assaut, grimpent sur un tank. On vient en famille à cette exposition sur les armes en Iran. Farida, vêtue d'un tchador, se fait photographier devant un avion de combat.
Cette exposition montre la puissance de l'Iran. Les gens prennent conscience de la qualité de nos équipements militaires. En voyant cela, on se sent en sécurité dans notre pays et ça nous rend très fiers.
Drones, armes lourdes et missiles, c'est le clou du spectacle en extérieur. Le programme balistique iranien inquiète les Occidentaux, mais pour les visiteurs qui reprennent le discours officiel, c'est nécessaire.
L'Iran montre ainsi au monde que si quelqu'un veut attaquer notre pays, nous pourrons répondre avec ces magnifiques missiles.
Les sanctions américaines plongent l'Iran dans la crise, mais personne ici ne remet en question les dépenses militaires.
En dépit de tous les problèmes que nous avons, nous sommes fiers de notre révolution. Voilà maintenant 40 ans que nous nous tenons debout, malgré toutes les sanctions, tous les problèmes que les pays occidentaux provoquent en Iran.
Les visiteurs de cette exposition soutiennent le régime, c'est la frange la moins critique de la population. Ils seront demain dans la rue pour fêter l'anniversaire de la révolution. Téhéran, Gilles Gallinaro, Franck Madvon, France Inter.
En France, il n'y a plus que deux départements en vigilance orange au vent très fort. Ce soir, la Savoie et la Haute-Savoie, où la situation est assez difficile. On voit ça tout de suite sur la route.
Point route avec Calibat. 73 000 entreprises et artisans pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com.
Très compliqué donc en Savoie, Soizic-Bourg.
Oui, au niveau de Chambéry, pour remonter vers Lyon, le trafic est très chargé. Même chose sur l'A41 pour rentrer dans Grenoble. La Savoie, vous le disiez, toujours en vigilance orange, vent violent par Météo France. On attend aussi des chutes de neige à partir de 600 mètres. Ça pourrait souffler jusqu'à 120 km/h dans les montagnes. Les machines de salage sont au travail sur l'A404 de Bourg-en-Bresse vers Oyonnax. Il y a du verglas, donc soyez très prudents. Et puis du monde aussi sur l'A40 pour revenir d'Oyonnax justement vers Lyon. Enfin, en région parisienne, ça bouchonne sur la 13 entre le péage de Vaucresson et la porte d'Auteuil pour rentrer dans Paris. Comptez une bonne dizaine de minutes. Même chose sur la 86 intérieure entre Thiers et Fresnes. Et puis prenez votre mal en patience sur la 3 depuis le Blanc-Ménil jusqu'à Bondy. Là, vous avancez par à-coup sur 8 km.
Soizic-Bourg, OPC Mobilité de Radio France. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
De nombreux trains, notamment des TGV, avaient été supprimés par précaution en Bourgogne-Franche-Comté, mais beaucoup plus de peur que de mal, et tout va se calmer maintenant, Jean-Michel Golinski.
La vigilance orange pour les départements de l'Est s'égrène au fil de la soirée, les plus fortes rafales passant progressivement les frontières. Par contre, en Méditerranée, le vent d'ouest va rester sensible. Demain, le bassin méditerranéen, à l'aide du vent à 90 km/h, va retrouver un ciel variable. Le soleil fera également des apparitions assez larges ce lundi, du nord de la Loire à la Belgique et sur le Poitou-Charente. Par contre, au sud de la Garonne, l'ambiance sera maussade et neigeuse à moyenne altitude. Même type de temps prévu entre les Vosges, le Jura, les Alpes et le Massif central, avec beaucoup de gris, des pluies par intermittence en plaine et de la neige à basse altitude sur le relief cette nuit et demain matin. Et le vent va rester puissant sur les Alpes. Il faudra d'ailleurs se méfier du risque d'avalanche qui redevient fort, notamment sur le nord de la chaîne. Les températures partout plus basses en fin de nuit vont également un peu baisser en cours d'après-midi sur les régions de l'Est.
19h16, on passe au sport. Avec vous Fabrice Abgral, bonsoir.
Bonsoir.
Et on débute bien sûr ce journal des sports par le rugby, le tournoi des Six Nations. France-Angleterre, c'était le match attendu, le fameux crunch qui s'est transformé en crash. Car comme prévu, victoire très large des Anglais face aux Français.
44 à 8, c'est le score final. Autant dire que les Français ont sombré, submergés par des Anglais beaucoup trop forts, beaucoup trop rapides et sans pitié pour des joueurs du 15 de France en souffrance, devenus aujourd'hui des faire-valoir. Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir Fabrice.
En direct de Twickenham. Alors certains parleront de naufrage, d'autres de déroute, mais plus simplement les Français ont reçu aujourd'hui une leçon d'efficacité et de réalisme.
Oui, leçon d'efficacité, de réalisme, j'allais dire une leçon de rugby tout simplement cet après-midi sur la pelouse de Twickenham. Il y avait le maître et l'élève, le maître anglais, tout en rigueur, tout en solidité, tout en sérénité, qui a vraiment récité son rugby face à une équipe de France complètement déboussolée, perdue sur la pelouse de Twickenham. Et c'est vrai que c'est allé très vite dans cette partie avec un essai après 65 secondes de jeu seulement. Puis derrière, ça s'est enchaîné. Déjà 4 essais encaissés à la pause, 30 à 8 à la pause en faveur de l'Angleterre. 2 autres essais au retour des vestiaires. C'est tout simplement, Fabrice, la pire défaite du 15 de France depuis plus d'un siècle ici en Angleterre.
Alors Jérôme, je vous propose d'écouter la réaction de Jacques Brunel, le sélectionneur dépité et fataliste.
Il n'y a rien à dire, l'Angleterre était beaucoup plus forte que nous. Elle a fait une première mi-temps, elle nous a mis sous pression, on n'a pas su s'en sortir. Le match était joué à la mi-temps, on a tant bien que mal résisté en deuxième mi-temps, mais bravo à l'Angleterre.
C'est clair Jérôme, il y a une classe d'écart entre la France et l'Angleterre et la France est très loin des meilleurs.
Oui, c'est le constat brutal, cinglant. Il y a l'Angleterre en première division et la France en deuxième division. Et effectivement, le gouffre est béant entre ces deux équipes. L'équipe de France qui est tout simplement devenue une équipe banale que tout le monde veut battre et que tout le monde peut battre. Et c'est vrai que c'est forcément un peu inquiétant. Ce qui est très inquiétant, Fabrice, c'est que toute la semaine, on a eu des discours de la part des joueurs, des discours volontaires, des discours mobilisateurs. On veut rivaliser avec cette équipe anglaise, nous disait encore hier le capitaine Guillaume Guirado. Eh bien, tous ces discours sont tombés dans le néant cet après-midi. L'équipe de France aujourd'hui est sans solution et c'est forcément inquiétant pour la suite du tournoi à court terme, mais surtout en vue de la Coupe du Monde dans 8 mois.
Et prochain match des Français dans le tournoi, ce sera le 23 février au Stade de France contre l'Écosse.
Des Français humiliés à Twickenham. Même sanction, même punition pour l'équipe de France féminine à Doncaster.
Ouais, les Françaises vainqueurs du tournoi l'an passé ont été surclassées par les Anglaises vice-championnes du monde 41-26. Les Françaises ont été largement dominées. Les Anglaises ont pris leur revanche sur les Françaises qui les avaient battues l'an passé. Les Bleus avaient battu les Galloises la semaine dernière. Mais là, Fanny Lejeunestrier, le retour sur terre a été violent.
Dans le froid saisissant de Doncaster, les larges sourires du week-end dernier ont en effet laissé place à des visages marqués par l'intensité du match, par l'ampleur du score aussi. 9 essais à 4, la deuxième ligne, les Naïk Corson est sonnée.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu, qu'on avait pris une grosse raclée comme celle-ci. Ça nous remet les idées en place, puis ça fait mal.
Il faut dire que les Bleus se savaient attendus, elles qu'on a érigées en avenir du rugby tricolore face aux déroutes masculines. Alors après de superbes succès contre la Nouvelle-Zélande, puis le Pays de Galles, les affamés rêvaient d'enfoncer le clou face à à la deuxième meilleure nation mondiale. Mais pour la manager Annick Hérault, la marche était tout simplement trop haute avec deux jeunes Françaises pas encore matures pour le plus haut niveau.
On savait que ça allait être dur quand on avait des joueuses qui découvraient ce que c'était le haut niveau. Ah, c'est un bon apprentissage, un peu dur même. Hein. On a été inexistante surtout de la première mi-temps. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut juste travailler un peu plus.
Travailler un peu plus pour pouvoir l'emporter face à des joueuses professionnelles à plein temps. De là à parler de coup d'arrêt, la demi de mêlée Pauline Bourdon n'est pas d'accord.
Ça va continuer à prendre de l'ampleur, le rugby féminin. Il faut continuer à qu'on ait des résultats pour justement que les gens viennent plus nous voir dans les stades et nous suivent plus à la télé. Mais il n'y aura pas de raison.
Avec un rebond attendu contre l'Écosse dans deux semaines. À Doncaster, Fanny Lechevestrier, France Inter.
En foot, il fallait s'y attendre, c'est confirmé. Edinson Cavani ne jouera pas en Ligue des Champions mardi contre Manchester United.
L'attaquant du Paris Saint-Germain a été contraint de déclarer forfait pour ce huitième de finale. Allez, les examens qu'il a passés ce matin ont révélé une lésion à un tendon de la hanche droite. La poisse, décidément, s'acharne sur le PSG, Bruno Salomon.
Dès samedi soir, après sa sortie sur blessure, cela ne faisait quasiment aucun doute que Cavani, touché à la cuisse droite, ne serait pas rétabli pour Manchester United ce dimanche. La sentence est tombée, le PSG a communiqué. Les examens pratiqués ont mis en évidence une lésion d'un tendon de la hanche droite. Le traitement et la durée d'indisponibilité dépendront de l'évolution dans les prochains jours. Entendez par là que le Matador n'est même pas sûr d'être présent pour le match retour du 6 mars prochain. C'est dans trois semaines, mais d'abord bien sûr il faut penser au match aller de mardi soir qu'il va falloir aborder sans Neymar, sans Cavani, sans Meunier, avec un Marco Verratti à peine remis de son entorse de la cheville droite et avec un Paredes qui n'est pas prêt. L'horizon est donc bien sombre pour le PSG de Thomas Tuchel qui, dépité samedi soir, a expliqué qu'avec tous les joueurs dispo, c'est déjà difficile d'affronter Manchester United. Alors sans certaines stars et cadres, c'est encore plus compliqué. Paris a désormais moins de 48 heures pour se réinventer.
Voilà, d'autant que Manchester est en pleine forme et notamment son milieu de terrain, Paul Pogba. Suite et fin de la 24e journée du championnat de France de Ligue 1 de football. 6 matchs au programme, aujourd'hui 5 sont terminés.
Lille a consolidé sa deuxième place en s'imposant à Guingamp 2-0. Lille compte toujours 10 points de retard sur le PSG, le leader. Rennes de son côté a battu Saint-Etienne 3-0. Match nul entre Toulouse et Reims, 1 but partout. Pas de vainqueur non plus entre Montpellier et Monaco, 2 buts partout. Les Montpelliérains ont égalisé dans le temps additionnel sur pénalty. Enfin Nantes s'est incliné à domicile face à Nîmes, 4-2, alors que les Nantais menaient 2-0 à la mi-temps.
Ce match a donné l'occasion aux Nantais de rendre un dernier hommage à Emiliano Sala, décédé le 21 janvier dernier dans un accident d'avion.
Et dont le corps a été retrouvé et identifié cette semaine. Une minute d'applaudissement a été respectée au début du match. Une bâche géante avec le visage de Sala a été déployée avant le coup d'envoi. Les joueurs nantais portaient un maillot noir en signe de deuil. Toutes les places ont été vendues enfin au prix symbolique de 9 €, le numéro de l'attaquant argentin.
Le dernier match de cette 24e journée aura lieu tout à l'heure. Lyon se déplace à Nice à 21h.
Et quoi qu'il arrive ce soir, les Lyonnais resteront 3e, mais ils ont besoin de s'imposer pour rester à 3 points de Lille, l'actuel 2e. Les Lyonnais sont actuellement dans une bonne dynamique. Ils ont remporté leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais, espère bien poursuivre la série.
Il faut enchaîner par une 6e victoire si possible. Parce que on enchaîne les compétitions différentes, Coupe de France, championnat, puis bientôt la Champions League. Mais on a envie de mener toutes ces compétitions de front. D'une part parce que c'est excitant, d'autre part parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer. Et puis parce qu'on est ambitieux. Il faut savoir doser. Il s'agit pas de faire la langue de bois, mais avoir des mises en garde, être méfiant, mais être confiant.
Nice-Lyon, dernier match de la 24e journée, coup d'envoi 21h.
En tennis, l'équipe de France féminine poursuit sa route en Fed Cup. Les Françaises qui se sont qualifiées pour les demi-finales.
Elles ont assuré leur place dans le dernier carré en s'imposant à Liège face à la Belgique 3-0. Après les deux premiers simples d'hier, les Françaises menaient 2-0 et c'est Caroline Garcia qui a apporté le point de la qualification cet après-midi en battant la numéro 1 belge Elise Mertens en 2 petits sets, 6-2, 6-4. Caroline Garcia, heureuse et comblée.
Ça me fait plaisir de faire des matchs comme ça, évidemment, ça me donne confiance. On s'est toutes préparées au maximum pour être prêtes et compétitives ce week-end. Pour ma part, moi qui étais sur le terrain, j'ai tout donné, j'ai essayé d'être restée calme, positive, que des fois il y a eu des moments un peu chauds, un peu compliqués, mais j'ai réussi à rester sur ce que je sais faire et à rester positive, et ça c'est important. Et puis toute l'équipe était derrière du premier au dernier point de la rencontre.
Un sans faute des joueuses françaises, un sans faute de Julien Beneteau qui dirigeait sa première rencontre en tant que capitaine. Et Jean-Pierre Blimeau, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître.
coup de maître, le mot est peut-être un peu fort, mais ce premier week-end comme capitaine sera marqué d'une pierre blanche pour Julien Beneteau. Caroline Garcia, qu'il avait convoqué sans garantie de voir revenir la numéro 1 française, s'est montrée exacte au rendez-vous. Alizé Cornet dit avoir disputé le meilleur match de sa carrière en Fed Cup face à la numéro 1 belge. La niçoise n'avait pas joué dans cette compétition depuis février 2017, qui plus est n'avait pas gagné en Fed Cup depuis 5 ans. Elle aussi a joué un grand rôle. Alors coup d'essai, coup de maître, en tout cas l'ancien joueur de Coupe Davis voulait absolument réunir les 5 meilleures françaises du moment, ce qu'il a réussi. Il a eu l'intelligence de préparer le terrain bien en amont pour ensuite s'adapter aux souhaits des joueuses. Dans le mille, Alizé Cornet a beaucoup aimé. La niçoise a même parlé de la tendresse qu'elle a décelée dans les yeux de son capitaine. Quant à Caroline Garcia, elle a notamment apprécié que Julien Beneteau se renseigne auprès de son père, celui qui la guide dans sa carrière. Mais la numéro 1 tricolore a laissé planer un doute ce soir quant à sa participation à la demi-finale. À la question, la Lyonnaise a répondu « Pour l'instant, j'ai accepté cette sélection contre la Belgique. Ça s'est bien passé », sans confirmer sa présence au tour suivant.
Les Françaises affronteront en demi-finale le vainqueur du match République Tchèque-Roumanie. La rencontre aura lieu les 20 et 21 avril prochains.
Le tennis, c'est aussi le tournoi de Montpellier, remporté par Jo Wilfried Tsonga.
Le Manceau est sorti vainqueur en finale du duel franco-français qui l'opposait à Pierre-Hugues Herbert. Tsonga s'est imposé en 2-7, 6-4, 6-2. Le Manceau a remporté le 17e titre de sa carrière, le premier depuis un an et demi, depuis sa victoire à Anvers en octobre 2017. C'est un retour au premier plan pour Tsonga après une saison 2018 complètement gâchée par des blessures à répétition. Le Manceau, du coup, savoure ce retour au plus haut niveau.
Je suis très content d'être de retour sur le tour. Je suis content de pouvoir enchaîner les matchs et retrouver la condition physique et la confiance sur le court. Maintenant, je suis loin d'être arrivé. Il y a encore des étapes pour retrouver évidemment mon meilleur niveau, mais je suis très satisfait de ce début de saison et de la façon dont j'évolue ces derniers temps. J'espère continuer à évoluer de mieux en mieux au fil de la saison.
Et Jo Wilfried Tsonga participera à partir de demain au tournoi de Rotterdam en compagnie notamment de Gaël Monfils et Pierre-Hugues Herbert, mais pas de Lucas Pouille, forfait car malade.
Les championnats du monde de ski alpin à Åre en Suède et un dernier podium pour Lindsey Vonn, la légende du ski alpin.
L'américaine a décroché la médaille de bronze de la descente féminine dans ce qui constituait la dernière course de sa carrière à 34 ans. Lindsey Vonn finit en beauté à son palmarès, un titre olympique, 2 titres de championne du monde et 82 victoires en Coupe du Monde. Lindsey Vonn quitte la scène de la plus belle des manières, l'hommage de Tessa Vorley, championne du monde en titre en géant.
Un monstre. Non, c'est vraiment, elle est incroyable. C'est vrai que c'est très courageux de sa part. C'est assez incroyable. Elle a aussi de gros problèmes physiques. On connaît toutes un petit peu de ce par quoi elle passe. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Et je l'ai croisée ce matin et je lui ai simplement souhaité de profiter parce que c'est vrai que c'est une belle vie et elle va passer à autre chose. Mais je pense que ça va être différent sans elle.
Alors c'est vrai, la performance de Lindsey Vonn, la toute nouvelle retraitée, a légèrement éclipsé la victoire en décembre de la Slovène Ilka Stuhec qui conserve son titre. Demain, place au combiné, messieurs. Sérieux chance de podium côté français avec Alexis Pinturo et Victor Mufajandet, respectivement deuxième et troisième aux derniers Jeux Olympiques dans cette discipline qui associe, je vous le rappelle, descente et slalom.
Allez, on termine, Fabrice, avec l'équitation. Les meilleurs cavaliers de la planète étaient à Bordeaux ce week-end pour la dernière étape du circuit Coupe du Monde.
Un circuit hivernal au cours duquel les cavaliers engrangent des points pour se qualifier en vue de la finale qui aura lieu à Göteborg en Suède début avril. Seuls 2 Français seront du voyage, Kevin Stowe, le champion olympique par équipe de Rio, mais aussi l'Aquitain Olivier Robert, moins connu du grand public, mais sur lequel il faut désormais compter. Laetitia Bernard l'a rencontré.
Certains appellent cela la positive attitude. Olivier Robert est un cavalier heureux. Avant de posséder ses écuries de compétition, il a vendu des cuisines. Pendant 12 ans, il montait en parallèle, toujours habité par l'amour des chevaux et de la gagne. C'est grâce à ses résultats et à quelques montures d'exception sur sa route qu'il vit aujourd'hui de sa passion.
Le plus difficile, c'est d'accéder à ce haut niveau. Mais quand on est à haut niveau et avec des chevaux qui vont bien, c'est une image facile. Mais à la fin, je fais vraiment le plus beau métier du monde parce que je n'ai pas des parents fortunés. Loin de là et pourtant j'en vis très bien et on est chez nous et on vit un rêve.
Membre du premier groupe de l'équipe de France, il s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde en Suède. En selle sur tempo de pavant, il ne compte pas y jouer les simples figurants.
Je vais me présenter à Göteborg avec un cheval qui sort vraiment vraiment de la norme, donc les résultats sont de ma responsabilité. J'ai vraiment un cheval pour faire autre chose que participer.
Plus que quelques semaines de patience, un peu de pression peut-être, mais toujours le sourire.
Allez, pour terminer, un petit mot de judo avec le tournoi de Paris. Margot Pinault a décroché aujourd'hui la médaille d'argent en moins de 70 kilos.
C'était le journal des sports de Fabrice Abgral.